7h27, la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, la Commission Laurent, donc présidée par Régine Laurent, a amorcé ses travaux. Ça se poursuit à Montréal. Il y aura également des audiences de prévues à travers le Québec. Mais hier, on a pu entendre donc des enfants de la DPJ, devenus aujourd'hui adultes, raconter leurs expériences pour, en quelque sorte, donner les cibles, les orientations pour les responsables de la Commission. Jessica Côté-Guimont, qui est co-porte-parole du comité de jeunes études sur le devenir des jeunes placés, est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
On va parler de vous pour commencer, puis après ça, on pourra élargir de façon globale. Vous avez été placé, vous êtes une enfant de la DPJ. Racontez-nous un peu comment c'est arrivé, puis combien de fois on vous a déplacé durant votre vie.
Oui, donc moi, à l'âge de 10 ans, j'ai été, en fait, ma mère et moi, on a signalé. Donc, c'était pour des conflits familiales. Et puis, la période de l'adolescence, donc j'ai été placée comme ça jusqu'à 18 ans. J'ai fait 20 déplacements et placements différents et 3 tentatives de retour à la maison.
Quand vous dites 20 déplacements, là, ça veut dire quoi? On vous envoie dans une famille d'accueil, vous allez ensemble, vous changez encore d'endroit, c'est ça?
Exactement. Donc, j'ai tout essayé, là, que ce soit les centres jeunesse, les familles d'accueil, les foyers de groupe, les auberges du cœur. J'ai vraiment eu un portrait global de tous les milieux qui étaient accessibles.
Et pourquoi vous changez de place comme ça?
Mais parfois, c'était positif, là, à cause que ça allait mieux au niveau de mes comportements. Parfois, c'était l'inverse. Parfois, on me retournait à la maison. Donc, là, quand ça explosait, on me retournait ensuite en placement. Donc, c'était toujours en période de ping-pong comme ça. Notre étude démontre que les jeunes sont placés en majorité environ 7 fois dans leur parcours. Donc, c'est quand même des données qui sont inquiétantes au niveau de l'instabilité. Plus on vit d'instabilité, moins on a de chance là, de pouvoir s'en sortir puis d'être heureux dans notre vie, en quelque sorte.
Mais comment on fait pour développer des liens avec les gens si on est transporté comme ça, comme un paquet?
C'est assez difficile, je peux vous dire. Puis souvent aussi, les jeunes qui sont placés ont vécu des traumas d'attachement ou des traumas complexes. Donc, c'est certain que l'attachement est très difficile. La confiance envers l'adulte est très difficile aussi. Mais aussi, entre jeunes, on n'a pas, par exemple, en centre jeunesse, on n'a pas l'occasion de discuter en groupe, entre jeunes, entre les difficultés qu'on peut vivre. On garde toujours ça à l'intérieur de nous. Puis à un moment donné, ça devient assez lourd à vivre. Donc, nous, ce qu'on veut en tant que groupe, c'est de faire reconnaître l'importance d'un réseau social. Aussi, la stabilité des intervenants, ça va de soi, bien entendu, mais d'offrir aussi une alternative aux jeunes, donc des regroupements de jeunes, un peu comme Care Jeunesse, qui est un organisme que je développe présentement, qui seront à la commission Laurent ce matin à 9h30. Donc, c'est d'offrir justement des places de discussion aux jeunes pour échanger sur ce qu'ils vivent, comment ils se sentent, et de faire des activités aussi pour socialiser, parce que dans le développement de l'enfant, la socialisation est très importante.
Il y a quelque chose qui m'a frappé dans les témoignages, et bon, je le savais un peu, mais quand même, c'est de voir cette espèce de rupture qui arrive à 18 ans. L'État ou le système vous prend en charge, là, puis fait des expériences, pas toujours heureux, mais bon. Mais à 18 ans, vous êtes adulte, puis débrouillez-vous.
Oui, oui, exactement. C'est complètement fou comment que ça se passe à 18 ans. Pour certaines personnes, ça se passe quand même bien. Là, on a des programmes qui sont développés. Je pense à des projets comme DAVA. Je pense aussi à des projets comme PQJ qui existent. Mais c'est seulement une minorité de jeunes qui ont accès à ça. Et puis, ce qui arrive...
Ces programmes-là, là, vous me corrigerez, parce que moi, bon, on me disait que... Mettons, à partir de 17 ans, on commençait à préparer un peu l'ado à devenir adulte, donc à se trouver un logement, à ouvrir un compte de banque, des espèces de trucs assez de base, là.
Ouais, on commence le parcours, la transition beaucoup trop tard, ça va de soi. Pour les programmes de PQJ, on commence à 15-16 ans. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Mais je vous dirais, c'est ça, il y a vraiment pas beaucoup de place. Ce qu'on remarque, c'est que les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Ils sont un vide de service à 18 ans. Souvent, les services sont tout arrêtés en même temps, que ce soit au niveau de la santé physique, santé mentale. Une coupure drastique. Et puis, on doit se débrouiller seul dans le réseau qui est comme vraiment complexe actuellement aussi, en pénurie de main-d'œuvre partout dans le système. problème, mais vraiment de préparer d'avance ces jeunes-là en faisant des liens avec la communauté aussi, avec les choses qui existent déjà, de faire connaître les services, les opportunités. C'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre de l'avant parce que clairement, il y a un manque. Puis ce manque-là, il est à l'international également. C'est une pas seulement au Québec. On peut le remarquer lors de nos discussions avec des gens de la France dans les ADEPAP en France, par exemple. Ils vivent la même chose en Argentine également. Donc, c'est vraiment une question qui est internationale, la question de la transition à la vie adulte des jeunes qui sont sous la protection de l'État.
Mais je pense aux auditeurs qui écoutent puis qui se disent comment, c'est l'État, mais ce sont des êtres humains, là. Comment t'interviens dans une famille? Prenons votre cas où il y a une chicane, il y a des conflits entre la mère et la fille. Qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'on fasse dans votre cas?
Bien, je pense que la première chose qui est primordiale, c'est la participation. Que ce soit la participation des familles ou des jeunes, il faut respecter leur droit qui est d'être entendu, d'être écouté, d'être respecté et d'avoir l'information également. Donc, c'est certain que quand on n'a pas ces éléments-là, souvent, la DPJ arrive avec leurs gros sabots et disent « Nous, on sait ce qui est bon pour toi, puis on va prendre les décisions à ta place. » Nous, ce qu'on propose, c'est justement d'inclure les jeunes et leurs familles dès le début, dès la prévention, pour savoir qu'est-ce qui va pas, comment on peut vous aider pour améliorer tout ça. On voudrait donc que la DPJ soit perçue de la population comme des pompiers qui viennent éteindre des feux, mais aussi qui fait de la prévention pour éviter des feux. Et non pas comme des policiers qui débarquent avec un pouvoir d'autorité et qui décident pour eux. Concernant les difficultés familiales, moi, ce que je proposerais concrètement, c'est de la thérapie familiale, des moments de répit aussi pour les parents, pour les enfants, pour se ressourcer, pour vraiment pouvoir échanger puis trouver des solutions.
Mais si votre mère vous dit « je suis plus capable, j'appelle la DPJ », puis vous vous dites « ben moi, je suis plus capable parce que la relation est pas bonne avec ma mère, j'appelle la DPJ », c'est comme appeler le 911, là. C'est comme un cas d'urgence, il faut débarquer, il faut intervenir, non?
Oui, mais en même temps, moi, je me dis tout le temps, si on est là en avance, en prévention, puis qu'on aide, puis qu'on soutient efficacement nos parents, qui sont souvent des parents monoparentales en pauvreté, s'ils ont de la misère à arriver au niveau financier ou qu'ils sont en dépression, ça se pourrait qu'il y ait plus de difficultés, donc, à pouvoir vraiment offrir les soins adéquats à leurs enfants. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, en tant que société pour accompagner ces gens-là. J'entendais une femme hier m'écrire pourquoi on n'offrirait pas des services de parrainage pour les familles. Donc, une famille qui va relativement bien, par exemple, pourquoi on pourrait pas la pairer avec une famille qui a plus de difficultés, puis comme ça, s'entraider? Je trouvais l'idée très intéressante. Reste à proposer ces projets-là dans le plan au gouvernement. Mais la question des organismes communautaires, les jeunes nous le disent, les familles nous le disent, c'est ça qui fonctionne présentement. C'est des services de proximité qui sont en cohérence avec ce qu'ils vivent, puis avec leurs besoins. Et puis donc, c'est vraiment important de subventionner ces organismes communautaires-là.
À quel moment vous avez eu l'impression, en fait, à quel âge, là, vous avez dit, je suis plus en contrôle de ma vie, là. Tu sais, je suis capable de après avoir passé par toutes ces étapes-là. C'est arrivé vers quel âge?
Ben moi, c'est à 17 ans, quand j'ai passé au tribunal pour mon émancipation et que je suis partie vivre en appartement. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'impression d'avoir un pouvoir sur ma vie.
Mais à 17 ans, c'est jeune quand même.
Oui. J'ai dû faire 7 ans dans le système avant de me dire, OK, ça y est, j'ai le pouvoir sur ce qui m'arrive, sur ma vie, puis je peux prendre les décisions pour moi. Souvent, on arrive au tribunal, on n'est pas préparé. Aussi, la question de l'accès à la justice pour les jeunes ou pour encore les familles au niveau de la défense, c'est très problématique actuellement où ce qu'on n'a pas d'avocats disponibles, c'est souvent les avocats de l'aide juridique qui travaillent aussi avec la DPJ. Donc, de se faire vraiment entendre et reconnaître dans nos priorités, dans ce que nous, on veut, c'est très difficile. Je pense à une de mes collègues au comité, qui est une personne issue de la communauté trans, par exemple. Cette personne-là n'a pas été respectée du tout, tout au long de son parcours, que ce soit à la maison ou en centre jeunesse. On a toujours essayé de cacher son identité, puis on la respectait pas, on l'écoutait pas, puis on lui offrait pas ce dont dont elle avait besoin. Donc aujourd'hui, c'est certain qu'elle vit des choses plus difficiles et donc il faut réfléchir à notre façon et surtout au niveau de l'éducation aussi. Là, présentement, c'est très problématique. On est à 17 % de taux de diplomation sur les jeunes qui sont placés, comparativement à 75 % des jeunes de la population générale. Donc, c'est à se questionner sur comment fonctionne l'école.
En tout cas, ça fait
l'école.
Beaucoup d'enjeux. Ça fait, il y a pas mal de ça. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Jessica Côté-Guimont, qui est donc co-porte-parole de ce comité de jeunes études sur le devenir des jeunes placés, 7h38.